Hello, hello, bienvenue dans Occupe ton EHPAD, la nouvelle émission du collectif Occupe ton Ergo. Je suis Florine Levionnois, j'ai travaillé 5 ans en EHPAD et aujourd'hui je suis formatrice en IFE. Avec l'émission Occupe ton EHPAD, je souhaite offrir un espace d'échange autour de l'accompagnement des occupations des résidents, c'est-à-dire les activités quotidiennes qui ont du sens pour eux. À chaque épisode, un ergothérapeute de terrain te partagera son expérience et les petites actions simples qui pourraient être mises en place pour développer sa pratique en EHPAD autour des occupations. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Céline Bor, ergothérapeute en EHPAD et membre de la FEG. Céline, elle a été diplômée en 2015 en Belgique, elle a tout de suite exercé en EHPAD. Et après quelques années d'expérience sur le terrain, elle a débuté un master, donc le Master of Advanced Occupational Therapy, à l'Université de Derby en Angleterre. Et ce master, ça a été pour elle une opportunité de découvrir la littérature internationale et notamment les concepts liés aux occupations qui lui ont permis d'avoir une nouvelle grille de lecture des situations qu'elle observe sur le terrain en EHPAD. Elle nous a fait notamment part d'une réflexion autour de comment considérer l'environnement comme un levier d'une pratique communautaire en EHPAD. Et cette réflexion, elle nous la partage dans un article qui est paru en octobre 2023 dans la revue Ergothérapie. Et c'est en fait le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode, l'environnement institutionnel en EHPAD et le lien avec la participation des résidents. Bonne écoute pour ce nouvel épisode. Bonjour Céline. Merci d'être parmi nous et d'accepter d'échanger avec aussi nos auditeurs sur le thème des EHPAD. Aujourd'hui, du coup, le thème qu'on veut aborder, c'est l'environnement institutionnel des EHPAD et la participation des résidents. C'est de quel constat tu es partie dans ta pratique en EHPAD qui t'a amené à t'intéresser à cet environnement institutionnel ?
Déjà, bonjour Florine, merci de m'avoir invitée. Donc, je dirais que un des premiers constats qui m'a interrogée quand j'ai commencé à travailler en EHPAD, c'est un sentiment de paradoxe temporel entre les résidents et les équipes, où les résidents étaient un peu dans une sorte d'attente, exprimaient souvent un sentiment de solitude, voire d'inutilité et aussi d'ennui. Alors que du côté des équipes, les équipes sont tout le temps pressées, donc on court après le temps pour essayer de remplir, de faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et donc on vit vraiment dans une différence de relation au temps. Donc ça traduit vraiment une différence d'engagement occupationnel dans la journée. Donc c'est vraiment ça qui m'a posé question au début de ma pratique.
Et est-ce que tu penses que c'est possible de rééquilibrer cette relation au temps entre les équipes qui sont très investies, que tout doit aller vite, et au contraire les résidents qui sont un peu dans cette temporalité lente, sans trop d'engagement, avec ce sentiment de solitude ?
Mais je pense que ça peut être un axe de travail en ergothérapie. Donc, c'est ce que j'ai un peu exploré lors de mes études. Et en fait, ce qui ressortait de la littérature par rapport à ça, c'est que le modèle biomédical dans lequel est construit l'environnement institutionnel de l'EHPAD va placer le résident dans une position de recevoir du soin. Donc, le résident passe la journée à attendre qu'on vienne faire quelque chose avec lui, proposer quelque chose, et il est rarement à l'initiative d'un engagement, d'une participation sociale. Et donc, comme il est nécessaire d'avoir un tiers pour avoir cette participation, cette responsabilité repose donc sur l'équipe. Et donc, l'équipe est toujours en train de s'investir auprès des résidents. Donc, je pense qu'un des axes de travail en ergothérapie, c'est de retourner ça et de permettre aux résidents de s'engager de manière autonome, sans avoir nécessairement besoin d'un tiers pour pouvoir faire quelque chose.
D'accord. Et par rapport du coup à ce que tu dis sur la construction biomédicale de l'EHPAD, le fait que la personne accompagnée, donc le résident, et sur de l'attente, sur on lui propose du soin, il est dans l'accueil finalement de ce qu'on peut lui proposer. Tu penses que l'environnement pourrait être fait autrement pour pouvoir inverser ça?
Oui, alors là, actuellement, l'environnement, il est avant tout façonné par les soins, donc pour répondre aux besoins institutionnels. Donc, il n'est pas nécessairement, comment dire, habilitant, il ne permet pas nécessairement aux personnes de s'investir de manière autonome. Donc, par exemple, les activités de loisirs, elles vont être fournies par le service animation, le ménage est réalisé par le personnel de la maison. Les activités de préparation des repas sont faites au niveau de la cuisine. Donc tout ça, ce sont des missions qui sont remplies par l'institution. Et toutes ces activités qui finalement structurent notre journée quand on est à domicile disparaissent en institution et laissent un grand vide. Donc l'idée, ça serait de pouvoir permettre de s'investir dans des occupations de manière autonome. Donc par exemple, laisser les résidents faire eux-mêmes leur lit, débarrasser des plateaux par exemple, ou laisser des activités dans une salle que les personnes puissent s'approprier de manière autonome.
D'accord, ouais. Là, tu fais écho un petit peu au changement qui serait nécessaire pour pouvoir du coup amener ce côté où j'habilite, la personne est habilitée et elle participe d'elle-même. Par quoi tu penses qu'il serait le plus pertinent concrètement de commencer au niveau de ces changements environnementaux dans l'EHPAD pour permettre la participation spontanée finalement du coup des résidents?
Mais je pense que l'axe principal sur lequel il faudrait s'investir, c'est penser l'environnement pour permettre la rencontre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des espaces, souvent en institution, les espaces sont très longs. On va avoir des couloirs, des choses comme ça qui permettent finalement les activités des soignants. Et il y a assez peu d'espaces qui permettent les rencontres informelles, qui peuvent être à la base de discussions entre les résidents, de créer des liens communs ou de laisser, par exemple, je sais pas moi, des magazines ou des choses comme ça qui pourraient permettre aux personnes de s'investir de manière autonome. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de créer des espaces de rencontre, des espaces de déambulation agréables, des espaces où s'asseoir dans ces couloirs. Donc ça peut être quelque chose finalement de facile à mettre en place dans un environnement institutionnel qui est façonné par le soin.
Du coup, ça serait d'identifier, donc là, de plus partir sur les environnements collectifs hors de la chambre et d'identifier ceux où potentiellement les personnes peuvent se rencontrer et voir comment on peut favoriser cette rencontre, c'est ça?
Oui, alors dans la littérature, ce qui ressort au niveau des occupations collectives, c'est que ce qui va former la base du tissu social, c'est les rencontres informelles.
Pourquoi ce sont les rencontres informelles qui sont les plus importantes finalement?
Alors, les rencontres informelles, elles permettent de renforcer le tissu social. Et donc, dans le fait de s'investir dans des occupations qui renforcent le tissu social, ça va permettre de renforcer cet aspect communautaire. La communauté, elle est composée de trois composantes. Donc, la localisation, donc ça, c'est l'institution en elle-même, les liens sociaux et les intérêts communs. Donc, les liens sociaux, ils sont forcément générés par la rencontre. Donc, si les résidents restent dans leur chambre et qu'ils n'ont pas la possibilité de se rencontrer, on ne peut pas renforcer les liens sociaux. Et les intérêts communs se construisent uniquement par la rencontre et la discussion. Donc, l'intérêt de créer ces espaces de rencontre qui vont être en dehors des espaces d'animation, c'est de permettre à ces personnes en autonomie, s'installer, se rencontrer, discuter et créer des relations. Et le fait de créer ces relations vont permettre de renforcer ces liens sociaux et de renforcer la communauté.
Et moi, d'après mon expérience en EHPAD, je pense quand tu me parles là, de de lieux collectifs, de rencontres, je me dis, mais les résidents, ils ont des profils parfois très hétérogènes, avec des fois des difficultés de mobilité, des fois de communication, des fois des difficultés cognitives ou même des personnalités vraiment différentes. Et comment, que ce soit à l'échelle de l'institution ou nous en tant qu'ergothérapeute, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ces rencontres informelles par rapport au lieu qu'on aurait identifié?
Alors, je pense que une des pistes, c'est de réfléchir pas à l'échelle de l'institution, mais plutôt par des petits endroits. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se déplacer de manière autonome, et souvent dans les EHPAD, on va avoir des plus petites unités. Je pense par exemple dans l'établissement où je travaille, sur chaque étage, il y a ce qu'on appelle une salle à manger thérapeutique. Donc, c'est les résidents qui ont besoin d'aide pour le repas, ils vont être accompagnés à cet endroit pour, au moment du repas, être aidés par les soignants. Et en fait, ce qui se passe dans la vie institutionnelle, c'est que ces résidents, ils vont être préparés le matin. Donc, dans tout ce qui est activité d'hygiène, la toilette, etc. Et ensuite, ils vont être accompagnés dans la salle à manger. Mais comme ça se fait au fil des activités soignantes, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans ces salles à manger à 9h30, 10h le matin pour un repas qui commence à midi. Et donc, ce sont toujours les mêmes personnes qui se retrouvent et dans un espace qui est vide. Donc là, ces personnes-là, en l'occurrence, elles ont tendance à attendre toute la matinée jusqu'à ce que le repas arrive. Donc, une des pistes d'intervention, c'est d'apprendre à connaître ces personnes et de proposer dans l'environnement des activités dont elles pourraient se saisir. Donc, par exemple, des activités de manipulation, des activités de lecture. Donc ça, c'est vraiment en fonction des capacités de chacun. Mais du coup, de proposer, au lieu d'un environnement d'attente, un environnement qui offre des opportunités de faire quelque chose. Et par ce faire, la base de l'ergothérapie, c'est que l'engagement dans des occupations signifiantes est essentiel pour la santé. Donc, dans ce faire, on va permettre aux résidents
de s'engager et de finalement aussi de voir quelqu'un faire quelque chose. Ça peut donner aussi envie aux autres de faire quelque chose, que ce soit seul ou avec l'autre. Et c'est là où ça initie finalement des échanges autour de quelque chose de commun dont tu parlais, qui est nécessaire sur l'aspect communautaire, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que du coup, une activité peut-être avec une personne qui va être plutôt immobile en fauteuil roulant peut amener une personne mobile à se greffer, ou deux personnes qui sont en face l'une de l'autre de la table vont commencer à discuter par rapport à ce qui est disponible dans l'environnement.
Ouais, j'ai entendu plein de trucs intéressants là, du coup, dans ce que tu as dit. C'est dans les petits endroits, j'ai entendu de dire d'en fait de multiplier finalement dans l'environnement qu'est l'EHPAD les endroits de rencontre. Ça va permettre de pallier déjà aux problèmes de mobilité. Et puis, plus il y a d'endroits, plus il y a d'offres de rencontres et d'échanges avec les autres. Et de pas hésiter du coup, nous, à nous renseigner évidemment sur les résidents en tant qu'ergothérapeute, mais à co-construire finalement ces endroits avec les habitants, donc les résidents, et du coup qu'ils puissent là savoir qu'il y a cet endroit, se l'approprier, et ensuite pousser à la réalisation d'activités qui peuvent devenir des occupations et qui peuvent être source du coup d'échanges, quoi.
Exactement. Je pense que la différence du coup par rapport à ce qui est proposé traditionnellement en EHPAD et dans cette approche communautaire de l'ergothérapie, c'est vraiment d'essayer de voir les freins qui peuvent exister dans cet environnement institutionnel, donc qui est vraiment façonné pour le soin et qui est souvent pas signifiant en termes d'occupation du quotidien pour les résidents qui y habitent, et d'essayer de combler ce vide en proposant des opportunités de s'engager tout au long de la journée. Donc, plutôt que de venir proposer une activité spécifique aux résidents, de venir proposer un environnement riche et qui va permettre aux résidents, quel que soit leur niveau d'autonomie, quel que soit leur niveau cognitif, de rentrer en interaction et donc de s'engager de manière autonome.
Et dans l'environnement riche, tu as des exemples un petit peu de qu'est-ce qui marche souvent comme type de choses à mettre dans un environnement et qui va susciter de l'intérêt de façon assez, entre guillemets, unanime, quoi.
Alors là, il faut vraiment être vigilant donc au public qu'on va cibler, aux personnes qui vont être dans l'environnement. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de d'une unité de vie protégée, donc qui s'adresse plutôt à des personnes avec un profil avec des difficultés cognitives plutôt avancées. Mais par exemple, laisser de la vaisselle pas proche de l'évier, laisser des pichets d'eau avec des verres pour pouvoir se servir un verre, laisser des magazines, des crayons, des jeux de société, des objets du quotidien qui vont avoir un sens, du matériel pour nettoyer, des choses comme ça. Essayer de remplir cet environnement avec des objets proches du quotidien.
Ouais, d'accord, des trucs qui peuvent leur faire écho aussi à ce qu'ils avaient et vraiment d'avoir des objets qui vont faire les occupations. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des freins et dans un des éléments que tu as dit, tu disais que bah, des fois les espaces deviennent des espaces d'attente, que le personnel soignant, bah, voilà, eux ont leurs tâches productives à réaliser, vont accompagner les personnes à certains endroits, à certaines heures, toujours dans le même ordre. Du coup, les gens vont rencontrer les mêmes personnes, comme quelque chose d'une routine assez figée. Comment on peut travailler sur ça? Qu'est-ce qui serait à bouger en termes institutionnels en lien avec les autres professions, que ce soit la direction ou l'équipe avec laquelle on travaille?
Je pense qu'un des rôles de l'ergothérapeute peut être de porter notre vision de l'ergothérapie avec le fait que l'engagement significatif est essentiel. Donc ça permet de faire un certain pas de côté avec l'environnement biomédical qui est centré du coup sur la pathologie et donc sur le prendre soin des déficits finalement des personnes. Donc le fait de porter l'importance de cet environnement occupationnel va permettre de proposer des projets qui vont être un petit peu en dehors finalement des activités soignantes classiques et qui vont permettre aux résidents de s'engager dans des occupations signifiantes pour eux.
Du coup, de faire un peu la même démarche que ce que tu disais avec les résidents, c'est-à-dire bah, de co-construire et de les impliquer à la même échelle finalement dans ce côté penser l'environnement, utiliser l'environnement, etc. Est-ce que tu penses que ces environnements qui seraient faits donc en lien avec un projet institutionnel mais en collaboration étroite avec les résidents, est-ce que les professionnels pourraient eux aussi en bénéficier? Est-ce que ça serait possible et pertinent, et est-ce qu'il y a des exemples de ce qui pourrait être fait?
Alors, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça peut être que bénéfique pour l'ensemble des personnes qui sont en EHPAD, qui finalement forment une communauté, que ce soit les résidents ou les professionnels, sachant le temps qui est passé sur l'institution, ils font communauté tous ensemble. Donc, si chacun peut s'investir dans des activités des occupations signifiantes, ça peut que être bénéfique pour la communauté et donc pour les individus qui la composent.
Parce que là, dans ce que tu me dis, je me dis bah, rien que toutes les tâches productives que les différents postes en EHPAD peuvent faire, peut-être qu'ils peuvent les déplacer dans ces lieux de rencontre. Je pense bah, les lingères, faire le linge dans un des lieux disponibles, ou le cuisinier bah, préparer la salade de fruits dans un des lieux, etc. Et puis pourquoi pas, je sais pas, moi je sais que quand j'étais en EHPAD, il y avait des résidents qui venaient en autonomie dans la salle kiné faire du vélo par exemple, ou soulever quelques petites haltères, bon, à poids très modéré, hein, mais s'ils voyaient un soignant faire son vélo ou quoi, peut-être que s'il y en avait un à côté, il pourrait, ou imaginer des choses où il peut y avoir même des co-occupations entre soignants et résidents, sans que ça soit ce que tu disais, où je propose finalement une nouvelle activité à la personne. Là, c'est plus d'inclure la personne dans une activité que vous avez envie de faire ou qu'ils doivent faire dans le cadre de leur travail, quoi. Ça serait intéressant.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est sortir un petit peu de cette vision biomédicale traditionnelle où le soignant fait et le patient reçoit. Qui est encore très ancré pour être dans une dimension plus collective. Donc on peut trouver un petit peu ça dans des approches Montessori qui ont été utilisées en unité protégée, mais j'ai pas encore trouvé vraiment d'exemple où ces activités elles sont intégrées dans le fonctionnement institutionnel. Par exemple, j'avais vu et des choses comme du pliage de linge ou du service, si tu veux, quand les plats sont servis directement dans des plats familiaux dans les unités protégées. Donc ça, c'est une première étape. Mais finalement, on va venir modifier une activité pour qu'elle se rapproche du quotidien et permettre l'investissement des résidents. Mais pour moi, c'est pas encore tout à fait mis dans le fonctionnement institutionnel, dans le sens où ça va pas venir inclure les résidents dans le fonctionnement institutionnel en lui-même. Par exemple, plier le linge pour le redistribuer aux résidents, ou tu vois, préparer les plats pour les autres. Ça pourrait être une piste super intéressante, mais j'ai pas eu d'exemple où ça a été fait sur le terrain.
Parce que là, finalement, avec les exemples que tu donnais, que tu avais vus, c'est y a quand même besoin de ce fameux soignant qui amène le matériel.
Exactement.
Et qui est là, et qu'il n'y a pas ce côté spontanéité de la participation du résident, quoi, du coup. On peut l'inclure, mais à une moindre mesure, quoi.
Oui, pas encore. Ça va demander un gros travail de fond, parce que c'est le paradigme du soin qui est délivré, qui a besoin d'être un petit peu modifié pour considérer les résidents des EHPAD comme des acteurs de la communauté et de leur journée, même si effectivement ils ont des pathologies qui les ont amenés là et qu'ils ont des difficultés physiques et cognitives.
Et par rapport à ce paradigme-là qui est différent, donc biomédical pour beaucoup de professions et nous qui a évolué plutôt sur l'occupation, pour toi, en termes de professionnels, vers qui il serait le plus facile ou le plus opportun d'aller en premier en termes de profession pour faire cette sensibilisation et inclure dans le changement au niveau institutionnel?
Alors, je pense que si on veut être porteur de ce changement, il faut en premier lieu collaborer avec les directions. Parce que c'est la direction qui va venir... organiser le soin. Et si on veut venir apporter des modifications qui sont quand même, on parle comme ça de proposer d'inclure les résidents dans les activités, mais ça demande vraiment d'être soutenu par la direction, parce que c'est un changement profond dans la pratique du soin. Venir proposer, d'inclure les résidents dans des activités, par exemple, qui normalement sont prises en charge par les soignants, ça demande d'être soutenu par la direction, parce que c'est un changement profond de culture, de mon point de vue. Donc, en tant qu'ergothérapeute, c'est important d'être entendu par la direction là-dessus.
Donc, il faudrait s'assurer du soutien et de la compréhension de... Pourquoi ce changement auprès de la direction, finalement, avant de créer du changement avec les collègues sur l'institution, parce que c'est entre guillemets la direction qui va donner son accord, qui va mettre les moyens en œuvre et qui va pérenniser le système, quoi.
Pour moi, oui. Parce que après, en discuter avec les autres membres de l'équipe, ça me paraît évident, mais si on n'a pas le soutien de la direction sur ces activités, c'est difficile de les mettre en place. On va se retrouver rapidement bloqué à des freins institutionnels très importants.
Et ce serait quoi pour toi les plus gros freins institutionnels dans ce qui existe aujourd'hui, dans la façon dont fonctionne l'institution?
Mais ce qui va être un des freins, ça peut être le financement du matériel, de dégager du temps pour faire autrement. Et c'est surtout les habitudes qui placent les résidents au même titre que que les patients dans les autres institutions, mais les résidents qui déresponsabilisent les résidents en EHPAD pour les mettre dans cette position de recevoir quelque chose. Donc ça, c'est un frein institutionnel majeur parce qu'on a du mal à s'imaginer demander à des résidents qui habitent en EHPAD de participer à préparer le repas pour les autres résidents, ou à aider la lingère à distribuer le linge, ou parce on a vraiment cette notion d'institution où la personne reçoit quelque chose dans l'institution et n'est plus actrice au même titre qu'un domicile, en fait.
Oui,
Donc,
que chacun a son rôle, quoi.
c'est ça, même si c'est un lieu de vie, c'est quand même un lieu de vie qui est façonné par ce modèle biomédical et qui est façonné par ce faire de la part des professionnels et plus tellement des résidents. Et c'est ce qui crée d'ailleurs ce vide occupationnel, c'est ce qui ressort dans la littérature, c'est que malgré la volonté affichée des EHPAD de dire c'est un environnement comme à la maison où on va être inscrit dans une communauté, en fait, ce que montre la littérature, c'est que le changement, la transition entre le domicile et l'institution, c'est assez brutal parce que le résident va perdre les responsabilités, les habitudes de vie qu'il avait au domicile. Et toutes ces habitudes ne sont pas nécessairement remplacées par des activités dans l'institution. Donc, ça crée un vide occupationnel. Et donc, ça crée, si on peut raccrocher ça au concept de justice occupationnelle, ça crée une privation occupationnelle où on se retrouve finalement avec un temps qui n'est pas investi par des occupations signifiantes. Et donc, ça a des conséquences sur la santé des individus. Donc, c'est là que, en tant qu'ergothérapeute, c'est important d'avoir ce regard parce que ça a un vrai impact sur la santé.
Ben, ça, moi, je suis totalement d'accord avec toi et je me dis que justement, ce qui peut être difficile, c'est d'argumenter les changements au niveau de la direction, parce que nous, on en est convaincus de enfin, de ce lien entre je m'engage en désoccupation et ça a un impact positif sur ma santé. Qu'est-ce que, en tant qu'ergo, on peut faire pour argumenter auprès de la personne? Qu'est-ce qui serait à évaluer? Quel constat il faudrait mettre en avant à la direction? Et ensuite, comment je peux montrer que ce que je mets en place, ça marche? Qu'est-ce que je peux dire? Sur quels critères je peux me baser, en fait?
J'ai pas d'outil d'évaluation à proposer objectif qui va venir évaluer le vide occupationnel. Peut-être qu'il y a des indicateurs comme des tests le test de dépression qui pourrait être utilisé, mais ça c'est un travail au long cours. Après, ce qu'on peut voir, c'est l'engagement des personnes, la mise en mouvement, le fait de les voir faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui se voit assez bien.
Il me semble que j'avais vu une étude de l'ADRES qui mettait en avant la durée d'interaction sociale dans la journée, en séparant soignants et non-soignants. Et que je me suis dit, ça peut être un indicateur, mais ça veut dire qu'il faut rester à côté de la personne toute la journée, sans lui parler du coup, et voir quels sont ses échanges. Donc c'est vrai que sur la faisabilité, on dit que ça peut être compliqué, mais c'est vrai que ça, c'est le nombre d'interactions dans la journée, ça pourrait être un critère. Finalement, de constat puis d'évolution, mais ça semble plus difficile à mettre en place sur le terrain, quoi.
Tout à fait. Je pense que c'est un secteur qui pourrait être intéressant d'investir au niveau de la recherche. Peut-être passer, tu vois, évaluer ces interventions au travers de questionnaires de satisfaction, satisfaction vis-à-vis des occupations, d'estime de soi aussi peut-être, parce que le sentiment d'inutilité dont je parlais au début, ce sentiment de plus être investi dans des activités entre guillemets productives, parce que c'est vrai que du coup le fait d'être déresponsabilisé des activités du quotidien fait qu'on n'a plus ce sentiment de contribuer au quotidien comme on peut l'avoir au domicile. Et ça peut avoir un impact sur l'estime de soi.
Ouais, de faire un constat sur la satisfaction et l'estime de soi et de voir comment ça évolue suite au changement, déjà, ça serait des premiers indicateurs intéressants, ouais.
C'est vrai que j'y ai pas réfléchi spécifiquement en termes d'évaluation qu'on pourrait mettre en place, mais ça me semble des pistes à explorer.
Mais c'est vrai que je pense que malgré qu'on soit, nous, dans une approche occupationnelle, on n'est pas beaucoup sensibilisé à l'évaluation de l'aspect social. Du coup, on n'a pas forcément les outils. Quand là, j'avais été à la SFGG, il y avait eu une présentation sur ça. Et il y avait des outils pour mesurer la solitude et des outils pour mesurer le réseau social. Mais j'avais pas l'impression déjà que c'était spécifique en ergothérapie et c'était pas forcément rattaché à une profession, mais c'est des choses que j'avais jamais entendues, quoi. Moi, à part la 6 du modèle MOH qui évalue un peu les habiletés sociales, donc c'est encore autre chose, je connaissais aucun outil à part ça.
Non,
Donc
c'est vrai.
la partie évaluation serait bien encadrée finalement dans l'argumentation et le suivi d'un projet qui serait mis en place sur l'institution, quitte à commencer par, comme tu disais, commencer par un petit endroit et voir ce qui s'y passe et ce qui fonctionne et ce qui peut moins fonctionner, quoi. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses que tu voulais aborder sur justement cet environnement institutionnel et son impact sur la participation des résidents et les changements finalement qui seraient à opérer dans l'avenir et puis par les ergots, quoi.
Ce que je pense, ce que je voulais ajouter, c'est que cette perspective occupationnelle, en tout cas pour notre profession, c'est une richesse dans la lecture qu'on peut avoir de l'institution. Parce que ce pas de côté qu'on peut avoir par rapport au modèle biomédical, ça peut nous permettre de comprendre l'impact de l'institution sur les résidents, donc à la fois sur les résidents au niveau individuel, quand on voit qu'ils expriment ce sentiment de solitude, ce sentiment d'inutilité dans un endroit qui est si peuplé, parce que souvent les institutions, c'est au moins 60-70 résidents. Donc ça permet de comprendre un petit peu ce paradoxe et avoir ce regard global sur l'institution permet de proposer des solutions pour l'ensemble de la communauté et pas au niveau individuel. Et ça permet de comprendre comment cet environnement institutionnel va venir façonner le quotidien des résidents et de proposer aussi des redirections de ce modèle institutionnel pour soutenir l'autonomie des résidents.
Et par rapport à ce que tu dis, dans ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est d'offrir les lieux de rencontre et aussi de s'intéresser vraiment aux intérêts communs que peuvent avoir les personnes. Ça peut vraiment, vu que nous, on est un peu un lien, on peut les connaître tous plus facilement, de voir qu'est-ce qui peut ressortir comme intérêt, parce qu'il y a des intérêts générationnels, d'autres types d'intérêts. Et ça peut, eux, leur permettre justement d'engager ce lien avec les autres, quoi. Est-ce que tu aurais du coup là comme ça, pour un peu clôturer l'épisode, une formation que tu conseillerais sur ce sujet de l'environnement institutionnel ou de la participation des résidents, ou bien une personne ressource qui parle de cette thématique, ou encore peut-être une référence bibliographique, un article qui t'a interpellé à ce sujet, qui t'a aidé à faire ce cheminement autour de l'environnement?
Alors, j'en ai deux. Mais...
Ah,
Donc...
super.
Donc, le premier, C'est l'étude ethnographique de Cantarsis et Molineux qui a été publiée en 2017. Donc, ça a été publié dans le Canadian Journal of Occupational Therapy. Donc, ça explore les occupations collectives dans les espaces sociaux et leur rôle dans la fabrication du tissu social. Et donc, c'est une vraie application pratique de comment ces occupations permettent de soutenir la communauté. Donc, c'est dans cet article qu'ils explorent les trois grands thèmes qui sont les rencontres informelles, les activités associatives et les activités festives. Donc ça, je trouve que ça se transpose assez bien dans notre environnement institutionnel et c'est un article qui est extrêmement intéressant. Et le deuxième, c'est l'épisode 2 des Chemins de l'ergothérapie du
Ah.
collectif Occupe ton ergo, qui porte sur l'article de Rébéro sur l'habilitation et qui explique très bien cet article sur l'importance d'un environnement soutenant et qui amène beaucoup de compréhension sur ce sujet.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que maintenant en ressources, on a les vidéos YouTube, les podcasts qui peuvent aussi être inspirant et puis ouais, donner des idées de quoi changer, par quoi commencer, à qui parler, etc. Donc, tu pourras nous, enfin, l'étude, tu pourras nous donner un peu le lien
Oui.
ou la description. Je le mettrai dans la description de
Ouais,
l'épisode comme ça.
je te l'enverrai. Je te
Super.
l'enverrai.
Et pour finir, est-ce que ce serait quoi les messages clés tu voudrais qu'on, ou les points clés que tu voudrais qu'on retienne de cet épisode-là par rapport à la thématique de l'environnement institutionnel.
Alors, ce que je pense qui est important à retenir sur ce sujet, c'est de s'intéresser à comment l'environnement institutionnel qui est orienté sur les activités soignantes va venir façonner le quotidien des résidents. Et donc, quels sont les freins qui en résultent dans l'engagement et la participation sociale spontanée? Et donc, comment nous, en tant qu'ergothérapeute, on peut proposer des solutions à ça?
D'accord. Ouais, ça semble être des bons outils de début là de réflexion pour amorcer ça. Super. Bah, je te remercie beaucoup hein, pour ton partage d'expérience et ton expertise. Et puis voilà, on mettra quelques infos là dans la description.
Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois avec une nouvelle thématique et un nouvel invité. À la prochaine!